France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences. Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Marche des Sciences, une émission spéciale Bac Blanc et d'ailleurs toute la semaine sur France Culture, vous pouvez en profiter, Bac Blanc en histoire avec la fabrique de l'histoire, philosophie avec les nouveaux chemins de la connaissance et puis science avec la tranche science. Fan de SVT, le bac et après, c'est la question qui se pose aux lycéens adeptes des sciences de la vie et de la terre et qui, pour beaucoup, bien souvent, ne perçoivent à travers cette discipline que les terrains de la santé et du sport. Or, les SVT recèlent une diversité de métiers insoupçonnés. Loin de prétendre être exhaustif face à ce monde du possible, nous avons choisi d'arpenter le terrain de l'environnement, du développement durable et des biotechnologies. Avec nous pour en parler en direct sur France Culture, Natacha Ouvrier, professeure de SVT au lycée Léon Blum de Créteil. Elle est également enseignante relais dans l'équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Également à nos côtés, Richard Dumez, enseignant-chercheur du Muséum National de Paris, responsable d'un master EDTS. EDTS, c'est-à-dire environnement, dynamique des territoires et des sociétés. Il est spécialiste en ethno-écologie et il travaille au Musée de l'Homme. Et puis autour de la table aussi, David Boucher, ingénieur agronome, directeur de recherche à l'INRA, à la tête de l'Institut Jean-Pierre Bourgin. Et il est spécialiste de génétique et biologie cellulaire végétale. Et puis sachez que tout à l'heure nous rejoindra par téléphone en dernière partie d'émission Julien Cabioche, professeur de SVT à Rennes et créateur du site Vive les sciences. Et puis l'émission, comme d'habitude, sera émaillée de quelques archives sonores dénichées dans les fonds de l'INA par Anaï Morales. Et puis nous ne nous priverons pas non plus de redonner les bons conseils en cette période de bac blanc, les livres, les liens, les sites qui peuvent être utiles et des plus utiles aux futurs bacheliers. Bonjour Natacha Ouvrier.
Bonjour.
Bonjour Richard Dumez.
Bonjour.
Et bonjour David Boucher.
Bonjour.
Merci d'être tous les trois réunis pour le meilleur, j'ai envie de dire, des élèves en terminale S et en première ES et L qui vont passer ces épreuves de SVT, notamment hein, cette année. Et donc, Natacha Ouvrier, je me tourne vers vous. Est-ce que parmi eux, est-ce que d'ores et déjà, vous percevez chez certains une vocation SVT ?
Alors, hormis ceux qui veulent aller en médecine, qui sont donc très nombreux en général, cette année, j'ai quelques élèves qui ont l'air de se diriger un petit peu vers d'autres voies. Alors, c'est pas encore forcément bien précis. Ils pensent plutôt à aller à la fac en filière SVT. Ils me parlent un petit peu de prépa aussi, certains. Donc, quand c'est pas médecine, en général, c'est pas bien défini. Mmh. Même s'ils se disent qu'ils veulent travailler... que c'est une matière qui les intéresse.
Voilà. Ils ont déjà perçu ce goût possible, en tout cas, pour eux. Mais, et alors, quand vous parlez de filière SVT, c'est-à-dire à l'université, c'est quoi les filières SVT ?
Alors, ça va dépendre des universités, puisque chaque université propose ses plaquettes de licence. Ça peut être soit de la biologie générale, ça peut être de la biologie cellulaire, de la biochimie. Il y a aussi des parcours biologie-chimie. C'est le cas, par exemple, à l'UPEC à Créteil. Et puis après, il y a toutes les filières en sciences de la Terre. Après, il y a aussi des filières générales qui se spécialisent après, c'est-à-dire des licences de biologie générale dans lesquelles après, on va choisir des spécialisations. Donc ça peut mener vers l'enseignement, vers la recherche et puis vers des formations d'ingénieur.
En tout cas, on peut dire que ils n'ont pas une idée globale et ils n'ont pas une visibilité de cette diversité incroyable de métiers possibles avec une telle discipline.
Non, et puis mais en même temps, c'est pas forcément évident parce que comme chaque université a sa plaquette et que les premières années restent quand même assez généralistes, c'est pas évident de saisir tout de suite les débouchés qu'il peut y avoir.
Alors vous êtes professeur, donc votre parcours d'ailleurs a été lequel finalement ?
Alors moi, j'ai pas commencé directement la faculté en première année. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, donc en biologie. Donc ça s'appelle BCPST, Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre. C'est une classe préparatoire qui prépare aux écoles d'ingénieurs en agronomie, d'ingénieurs environnement, écoles vétérinaires et éventuellement les ENS. Et donc j'ai fait ces deux années de préparation, j'ai passé les concours, j'ai eu une école d'ingénieur en agronomie, Montpellier Supagro, j'y suis allée 2-3 semaines et puis je me suis dit non vraiment...
Ah, c'était pas ça.
Non. Non, vraiment, l'enseignement, c'est plus ce qui m'intéresse. Donc du coup, j'ai rattrapé la fac, mais en troisième année. Donc j'ai fait après une licence générale à l'université, un master en médiation et après une préparation au concours de l'enseignement.
Alors que ceux qui veulent dès à présent s'orienter vers l'enseignement, le parcours idéal, enfin idéal non, classique finalement.
Le parcours classique, idéal, c'est, on peut passer directement par la fac en rentrant en licence, en faisant une licence généraliste de SVT. Et après, il y a des parcours en médiation qui sont en partenariat avec les ESP, les écoles supérieures du professorat, donc les anciens IUFM. Et qui permettent de faire maintenant c'est un master 2 du coup enseignement qui intègre le stage et le passage du concours.
D'accord. Alors j'ai dit David Boucher voulait poser une question.
Oui, à propos des formations après le bac, oui, je voulais juste signaler aussi, il y a aussi tout un tas de formations courtes à bac plus 2, bac plus 3, des licences pro, des BTS, il y en a énormément dans énormément de disciplines différentes et c'est en général des formations très bien. Qui préparent réellement à des métiers et qui forment des jeunes qui sont, nous, dans nos laboratoires, on a tout un tas de gens qui sortent de ce type de formation et ils sont extrêmement bien appréciés dans ce cadre-là.
Donc à l'INRA. Alors je disais, Natacha Ouvrier, vous êtes professeur relais du MISOM, ça veut dire quoi?
Alors professeur relais, en fait, c'est une mission annexe que certains enseignants prennent en plus de leur charge de travail d'enseignant. Et ça existe pas que pour le Muséum d'Histoire Naturelle, ça existe pour pas mal de structures culturelles, que ce soit en région parisienne ou ailleurs. Donc l'idée, c'est que c'est des enseignants qui sont en poste plein, qui vont faire des heures dans une structure culturelle pour proposer des ressources aux autres enseignants en lien avec cette structure. Donc ça va être faire le lien, en gros, entre le muséum et les autres enseignants. Donc c'est organiser des stages pour montrer comment on peut utiliser les ressources du muséum pour construire les notions des programmes. Ça peut être proposer des ressources pédagogiques en lien aussi avec le muséum pour les professeurs. Bah, ça peut être venir ici, ça peut être plein de choses. Ça peut être proposer des parcours même entre plusieurs structures culturelles. L'idée, c'est d'ouvrir le monde de l'éducation au monde de la culture.
Alors, ce Muséum National d'Histoire Naturelle est une vraie fourmilière de métiers, donc différents. Moi, je peux signaler d'ailleurs que le 3 décembre dernier, nous avions reçu dans la dernière partie de l'émission Jérôme Sueur, qui est membre de l'Institut de Systématique, Évolution et de Biodiversité, qui est éco-acousticien. Et ça, je ne sais pas si les lycéens le savent aujourd'hui, mais il y a cette spécialisation, ce métier possible, être éco-acousticien, c'est-à-dire s'intéresser au son de la nature. Et donc, il a d'ailleurs... Il nous a annoncé aujourd'hui que la mise en place de la sonothèque du muséum était accomplie et qu'un cycle de conférences sur les sons de la nature allait s'ouvrir au muséum. Ce muséum, le monde du possible, je vous propose d'écouter tout de suite un document sonore pour comprendre aussi dans cette diversité quels peuvent être les parcours des personnes comme cet écologue Alexandre Ménez.
C'était un pari avec un copain à la fac. Il y avait une fois une affiche... qui invitait les étudiants à aller faire un stage d'algologie à Roscoff, en Bretagne. J'y suis allé, je suis devenu spécialiste dans les algues. Comme pour les algues, il faut les voir sous l'eau, j'ai appris à plonger. Et depuis, j'ai constaté sous l'eau qu'il y avait des domaines entiers où on ne parlait pas, qu'on ne parlait pas ni dans la presse. C'était le temps où on parlait de la pollution par le mercure, des hydrocarbures, etc. Et je voyais mes coins de plongée détruits les uns après les autres par les porcs qui les recouvraient sans que personne n'en parlait. Et je me suis donc décidé non seulement de continuer la recherche fondamentale, mais également de m'occuper de choses importantes dont on parlait peu dans la presse.
Voilà, on pouvait découvrir le parcours de l'écologue Alexandre Ménez dans l'émission Nuit magnétique du 24 novembre 1989 sur France Culture, une émission intitulée « Chers chercheurs ». Et donc, avec ce monde du possible, je disais, comme devenir spécialiste de la biologie des algues et de leur reproduction. Alors, il y a aussi océanographes, ethno-écologues, bioacousticiens, écotoxicologues, chargés d'études risques naturels, chercheurs en biologie cellulaire végétale, hydrogéologues, juristes environnement, agronome, bioinformaticien, la liste est extrêmement longue quand on regarde ne serait-ce que les volumes produits par l'UNICEF, je les signale tout de suite d'ailleurs. Il y en a un qui s'intitule « Les métiers de l'environnement et du développement durable » et un second « Les métiers de la biologie et des biotechnologies ». Je pense qu'on peut utilement renvoyer sur ces documents. Donc la liste est longue, les formations à embrasser aussi. Et Richard Dumez, vous êtes chercheur et enseignant au Muséum, et vous travaillez au Musée de l'Homme, dans le département Homme, Nature, Société. Et vous, alors, vous êtes ethno-écologue. C'est quoi, concrètement ?
Alors, l'ethno-écologue, c'est un chercheur en sciences sociales qui va essayer de comprendre les interactions entre la société et son environnement naturel. Et plus que ça, on va essayer de comprendre l'expérience propre à chaque groupe, à chaque société, avec cet environnement naturel. On va s'intéresser à ses savoirs, à ses pratiques, à ses représentations de la nature, qui sont très variés. Et donc, d'un point de vue théorique, c'est aussi de voir quelles sont les différentes perceptions de la nature, de la biodiversité, donc, qui est un objet phare d'étude du muséum. Et donc, dans quelle mesure, par exemple, les populations locales gèrent les ressources naturelles, que ce soit pour l'alimentation ou ce genre de choses.
Alors, on parle de l'ethno-écologie, mais aussi de l'ethno-biologie ou de l'éco-anthropologie. Il y a de grandes différences entre les trois ?
Alors, éco-anthropologie, c'est un terme qu'il peut utiliser. En fait, c'est l'intitulé de l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, éco-anthropologie et ethnobiologie, qui est une équipe interdisciplinaire. Je pense qu'on reviendra sur cette question d'interdisciplinarité en environnement, qui associe éco-anthropologie, donc les généticiens des populations humaines. Donc, on est plus sur l'homme dans son environnement, mais l'homme biologique, comment l'environnement impacte sur l'homme. Et l'ethnobiologie, alors là, il y a des discussions. En fait, c'est une discipline qui est née au XXe siècle, dans les années 50. Ethnobiologie, c'est les interactions entre l'homme et le monde végétal et animal. Et l'ethnoécologie, c'est un peu plus englobant, parce que ça va être l'échelle du paysage, le monde minéral, donc c'est un peu plus global. Mais en fait, moi, je me revendique comme ethnoécologue, et des gens qui vont faire la même chose que moi vont se revendiquer ethnobiologiste.
En tout cas, un domaine de la recherche qui existe depuis combien de temps, à peu près ? Les années 50 ?
Alors la discipline, en fait, elle a plein d'histoires. C'est venu par les archéologues, parfois des agronomes, parfois des anthropologues. Et le champ de l'ethnoécologie s'inscrit dans les sciences sociales. Mais personnellement, je suis issu du monde, j'ai un cursus en biologie. Et donc, j'ai entre guillemets basculé dans les sciences sociales à Bac plus 5. Donc c'est un champ qui s'inscrit dans les sciences sociales, dans l'anthropologie, l'ethnologie.
Donc vous parliez de votre cursus, allons-y, votre parcours alors, ce fut quoi ?
Alors c'est un parcours sinueux, on va dire, parce qu'à l'issue...
C'est jamais sinueux, on s'enrichit toujours, voilà, même si on bifurque à un moment, non ?
Mais comme je m'adresse à des lycéens, quand j'étais au lycée, j'hésitais entre l'histoire géo et la biologie, qui étaient les deux axes qui m'intéressaient. Par peur, je pense, de l'autonomie en licence, à la faculté, je suis parti vers une classe préparatoire, maths bio, maths bio. J'ai intégré une école d'ingénieur en agroalimentaire où je ne me suis pas retrouvé. En fait, c'était pas l'orientation qui m'intéressait. Et après, je suis revenu vers une maîtrise d'écologie, licence de biologie, maîtrise d'écologie, DEA interdisciplinaire et ensuite une thèse en ethnoécologie. Donc, l'ethnoécologie, j'ai réuni cette biologie et cette histoire, géographie, ces sciences sociales qui étaient présentes déjà en licence, en terminale.
Alors, donnez-nous quelques exemples quand même de vos recherches, parce que là, on a bien compris votre parcours, ce sur quoi vous travaillez, en tout cas la définition de votre métier, de votre profession. Et vous êtes au cœur de ce muséum dans lequel vous pouvez accomplir donc des recherches. Donc, quel type de recherche, dans quel but, avec quelle finalité ?
Moi, je vais vous présenter ma recherche emblématique, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans les Cévennes, dans le sud de la France, où les éleveurs utilisent le feu pour entretenir leur pâturage. Et en fait, ils utilisent le feu pour entretenir des pâturages qui est dans un parc national. Et le feu en Méditerranée, dans une zone où il y a des risques incendies. Donc on a une rencontre entre trois grands groupes d'acteurs, les éleveurs, les gestionnaires du parc, et les sapeurs-pompiers, qui ont tous une relation au feu différente, des représentations de la nature différentes. Et la logique, c'est de s'intéresser aux problématiques de co-gestion, parce que les gestionnaires du parc gèrent un parc où sont présents des populations locales, des éleveurs. Donc voilà, c'est les pratiques de co-gestion, réfléchir sur la co-gestion, au savoir et comment les savoirs et les pratiques des populations locales peuvent avoir un intérêt pour la conservation de la nature, par exemple.
Et donc, à partir de vos travaux, donc vous établissez bien sûr ces travaux de recherche avec les résultats. Et ces résultats servent à qui après concrètement sur le terrain ?
Alors, pour l'instant, en fait, en ce qui me concerne, dans cette recherche, elle n'était pas vraiment appliquée. En fait, on va dire, c'est une recherche théorique où on fait un constat. Mais il peut y avoir des aspects. Je cours encadre une thèse sur un étudiant qui travaille sur, pour faire dans l'algologie, qui travaille sur la récolte des algues en Bretagne. Et donc, c'est la problématique de la gestion durable de cette ressource et comment les pratiques et les savoirs des populations locales peuvent être intéressants pour réfléchir à la durabilité de cette ressource. Là aussi, avec un contexte d'air protégé, des interactions avec des savoirs techniques portés par l'Ifremer et ce genre de choses. Donc, on est dans une logique de réfléchir. Alors, ça s'inscrit dans la Convention sur la diversité biologique où il y a un article fondamental pour nous qui est l'article 8J qui reconnaît les savoirs locaux des populations locales comme un atout pour la conservation de la biodiversité, par exemple, et le développement durable, la durabilité de la gestion des ressources. Donc nous, on est sur cette niche-là de s'intéresser aux populations locales comme acteurs importants de la conservation de la biodiversité, par exemple.
Alors, les populations locales comme acteurs importants, comme vous dites, de la conservation de la biodiversité, et puis faire en sorte qu'ils jouent leur rôle, qu'elles jouent leur rôle, ces populations locales, et aussi comme un levier pour le développement local, l'amélioration de la qualité de vie. On va en prendre la mesure dans un autre document sonore, trouvé par Anaï Morales à l'INA. Il s'agit de l'émission Interception sur France Inter de Christine Siméon, partie en République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr du thème des bonobos.
Maman Henriette, bonjour.
Bonjour.
On se trouve où ici ?
Nous sommes dans la forêt avec les petits, dans la nurserie précisément. Nous sommes les mamans de substitution ou les mamans de remplacement. Donc nous leur offrons l'amour, la tendresse, l'affection pour recréer en elles l'instinct de survie. Pour exercer ce genre de boulot, il faut que le cœur y soit. Si le cœur n'y est pas, en tout cas, vous ne parviendrez pas à sauver la vie d'un orphelin bébé bonobo. Bon, la première fois, en tout cas, c'est un peu difficile. Vous voyez, après avoir tué la maman, sa mère naturelle, là, le petit est abandonné à son triste sort. Donc, il n'a pas l'envie de vivre, bien l'espoir de vivre encore. Quand il nous retrouve pour la première fois, donc il n'arrive pas à comprendre ce qui lui va arriver. Mais après 8 jours, bon, quand nous allons l'approcher en lui offrant l'amour, la tendresse, il finira par comprendre que je suis dans un autre milieu où je n'ai pas encore espéré à vivre.
Alors Richard Dumez, ce document n'est pas innocent parce que vous avez travaillé aussi avec d'autres collègues chercheurs. Votre métier vous amène à avoir un univers pluridisciplinaire et à partager vos connaissances avec d'autres. Et vous avez travaillé sur ces cas justement de conservation, de sauvegarde des bonobos.
Alors comme pour les algues, c'était à travers un de mes doctorants, Clément Garino. Ouais. Et là, c'est un travail à travers une co-direction avec Sabrina Krief, qui est primatologue, sur les travaux de Victor Nara sur la conservation des bonobos. Et je dirais que, en fait, cet exemple pour nous est un contre-exemple. Ce n'est pas le bon exemple de la conservation de la nature, parce que là, le petit bonobo est mis entre les mains de l'homme et extrait de son milieu naturel.
Donc, peut devenir dépendant finalement.
Il devient dépendant. Et donc, on n'est pas du tout dans cette logique. Les travaux de Victor Nara sur la conservation des bonobos sont justement comment les pratiques des populations locales, là en l'occurrence c'était auprès de sociétés qui avaient un interdit alimentaire, peuvent favoriser la préservation des bonobos sans interférer avec la dynamique de vie des bonobos. Donc, alors là, c'est des sanctuaires qui sont effectivement des sites importants parce qu'on récupère des animaux dont les parents ont été tués, qui sont dans un bar, qui sont je ne sais où. Donc, effectivement, on va sauver l'animal, mais après, oui, ça pose
parce que sans le geste de l'homme, il meurt de toute façon. Donc, oui. Il faut bien un moment l'approcher, s'en emparer, mais faire en sorte qu'il y ait quand même malgré tout une distance, c'est ça ?
Donc là, c'est le problème du palliatif de la destruction par l'homme. Et donc nous, on est dans la logique de voir comment des pratiques locales peuvent favoriser une coexistence. Alors là, c'était une situation où il y avait un interdit alimentaire. Dans d'autres régions, il n'y a pas ces interdits alimentaires. Mais voilà, donc c'est, le sanctuaire est une nécessité parce qu'il y a des animaux qui sont extraits de la forêt, mais on les extrait du, un peu du monde sauvage. Et donc on n'est pas véritablement dans une, cette logique de la conservation de, des animaux in situ.
Natacha Ouvrier, est-ce que voilà, ces histoires-là, vous les approchez en tant que professeur relais du muséum, mais est-ce que ce monde du possible, comme je disais depuis le début de l'émission avec les SVT, vos élèves en première ES ou première L ou terminale S ont conscience que ça peut aussi ouvrir sur un monde presque d'aventurier, j'ai envie de dire. En tout cas, on peut partir de par le monde et puis accomplir une mission quand même aussi.
Alors, ils en ont un petit peu conscience quand même parce qu'en bon, terminale, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est pris par le temps. Mais de manière générale, on essaye, de, quand c'est possible, de contextualiser le plus nos cours. Donc ça peut être commencé par un extrait justement d'une vidéo d'un chercheur qui travaille avec des bonobos. Ça peut être une contextualisation où on leur propose de se mettre à la place de quelqu'un qui a déjà un travail et qui, dans le cadre de son travail, a une problématique à résoudre. Et donc ça nous permet de faire des petites présentations sur les métiers. Après, il faut savoir que la majorité de nos élèves, en fait, sont pas très aventuriers. Et quand on les emmène en sortie, ils ont très, très peur de la nature parce qu'ils sont très citadins. Donc, je suis même...
C'est incroyable. Ils sont en contact avec le monde entier, avec leurs réseaux sociaux.
Mais ils ont peur de s'asseoir dans l'herbe, oui. Oui, c'est vrai.
Bon, mais on va quand même essayer de leur donner ce goût de l'aventure avec ce dernier document sonore des fonds de l'INA. Il s'agit d'un intersoir du 4 septembre 2009, reportage de Sophie Becherel à l'aube du départ de la goélette Tara. Tara, cette goélette anciennement, le bateau de Jean-Louis Etienne, d'ailleurs qui s'appelait Antarctica, eh bien Tara allait partir 3 ans autour du monde sur toutes les mers et les océans.
Les scientifiques sont venus nous voir pour nous expliquer encore une fois... On a besoin de ce fabuleux bateau pour continuer une mission totalement différente, puisque là, le bateau va enfin naviguer, on peut dire, après cette dérive polaire. Les scientifiques ont besoin d'une plateforme comme Tara, océanographique, truffée d'instruments, très high-tech, pour comprendre ce qui se passe dans cette biodiversité marine.
L'objectif de Tara sera d'établir un point zéro du plancton présent dans les océans. Le plancton, dont la majorité est invisible, tant il est petit, ce sont tous ces organismes qui se déplacent dans les mers au gré des courants. Les méduses, les algues, les petits crustacés, les bactéries, les virus. Ce plancton est le deuxième poumon de la Terre après la forêt, car il piège du carbone et relargue de l'oxygène. En 300 points, des échantillons seront prélevés et analysés jusqu'à connaître le génome de ce plancton. Le pari est insensé. Mais 150 ans après Darwin, scientifiques et sponsors pensent qu'il faut le relever.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Être un aventurier de la biologie, ça existe. David Boucher, est-ce que vous vous sentez aventurier en agronomie, vous ?
Alors, moi, je pense que tout chercheur, la recherche, c'est une aventure. Alors, c'est une aventure le plus souvent intellectuelle. On n'y a pas besoin d'aller se promener dans la jungle pour ressentir cet esprit d'aventure. Mais je pense que c'est, à mon avis, une des principales motivations pour faire de la recherche, c'est que c'est une formidable aventure intellectuelle. Et puis, je pense qu'on a conscience de faire un métier utile. Et je pense que c'est ce qui motive la plupart des gens qui travaillent dans le domaine de la recherche.
Alors, je rappelle, vous êtes ingénieur agronome, directeur de recherche à l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique, et donc à la tête de l'Institut Jean-Pierre Bourgin. Donc, on va peut-être tout d'abord, comme pour vos deux collègues, s'intéresser à votre parcours. Vous, de quelle façon est-ce que vous êtes devenu ingénieur agronome ?
Eh bien, moi, je suis désolé, j'ai honte même par rapport à mes collègues, mais moi, j'ai un parcours parfaitement linéaire. J'ai su assez vite, assez tôt, dès mes classes de lycée, que c'est la biologie me passionnait, et en particulier la biologie des plantes. Donc, vous voyez, j'ai pas varié d'un pouce.
C'est rare, hein, le savoir très tôt, c'est rare quand même.
Alors, j'ai un peu hésité quand même avec des études d'architecture, mais enfin, je me suis engagé sur cette voie-là. Donc, après mon bac, qui était un bac scientifique, j'ai fait une classe préparatoire. Comme Natacha.
Oui.
J'ai intégré une école d'agronomie, d'ingénieur agronome, donc à Paris. Et il se trouve que pendant mes études d'agronomie, j'ai fait un stage dans un laboratoire de recherche en biologie végétale. Et que alors là, j'ai attrapé le virus et que j'en suis plus sorti. Et en fait, là, je dirige le laboratoire dans lequel j'ai réalisé ce premier stage il y a donc quelques dizaines d'années maintenant.
Alors dites-nous, vos travaux portaient sur quoi au départ ?
Alors au départ, je m'intéressais aux interactions entre des bactéries et des plantes, avec dans un système qui est totalement fascinant, où des bactéries injectent du matériel génétique dans des plantes et les obligent des cellules végétales à produire des composés qu'elles peuvent utiliser pour leur croissance. C'est un système d'interaction tout à fait fascinant. Donc j'ai réalisé ma thèse là-dessus. Après, je me suis intéressé à l'organisation et l'évolution des génomes végétaux. Et là, en ce moment, mes travaux de recherche apportent plutôt sur des aspects très pointus de biologie cellulaire des cellules végétales. Et je m'intéresse en particulier à la façon dont les cellules végétales se divisent. La division cellulaire, hein, tous les biologistes savent que c'est un processus fondamental en biologie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment dans une plante s'organisent les divisions cellulaires pour produire un organisme pluricellulaire. Donc, comment les cellules se parlent et comment elles prennent des décisions pour assurer le développement de l'organisme. Donc, ce qui nous étonne toujours dans ces processus, c'est pas tant d'essayer de comprendre, de décrypter les mécanismes, c'est pourquoi ça marche aussi bien. Et ça, c'est fascinant parce que ça devrait pas marcher aussi bien. C'est des phénomènes extrêmement robustes. Et il se trouve que les espèces vivantes ont inventé des mécanismes et des processus pour produire cette robustesse. Et c'est ça le genre de questions auxquelles on essaie de répondre dans mon équipe.
Alors j'imagine qu'on essaye de répondre à ces questions parce qu'il y a une finalité là aussi, où c'est peut-être pour améliorer quelque chose en rapport avec l'homme. Alors dites-nous concrètement sur quel type de plante spécifiquement vous auscultez.
Moi personnellement, je suis pas très à l'aise dans ces distinguos permanents entre applications, recherche fondamentale. Tout ça, c'est vraiment un continuum. Ça se nourrit complètement. Ça échange tout le temps. Il se trouve que dans mon laboratoire, on couvre un champ de recherche extrêmement large qui va des recherches les plus fondamentales jusqu'à des applications de ces recherches, l'utilisation des produits végétaux. Et c'est finalement, à mon avis, la bonne manière de voir les choses. C'est-à-dire que c'est un continuum. Il y a des échanges, il y a des évolutions même au cours des carrières des chercheurs qui peuvent passer d'aspects fondamentaux à des aspects appliqués. Par exemple, sur ce qui est mon domaine, sur les divisions cellulaires, moi, mon travail principal, c'est de produire des connaissances et d'essayer de produire des connaissances les plus générales possibles, les aspects les plus généraux possibles. Mais il se trouve que tout récemment, on a eu la surprise de voir apparaître des travaux sur le riz, sur le grain de riz, qui reprenait une partie de nos travaux et qui montrait que, par exemple, la forme du grain de riz, les grains de riz longs, vous voyez les différentes sortes de riz, hein, le riz basmati, etc., les gènes qui étaient derrière et les mécanismes qui étaient derrière cette forme du grain de riz, c'était les processus sur lesquels on travaillait, alors sur une espèce qui n'est pas une espèce alimentaire, pas une espèce d'intérêt agronomique, mais qui s'appelle une espèce modèle sur laquelle on travaille pour aller plus vite et plus loin que si on travaillait sur des espèces plus compliquées.
Combien de personnes, combien de groupes dans votre équipe, justement ?
Alors, dans mon équipe, on est l'équipe de recherche proprement dite. On est 5-6 personnes, c'est pas énorme. Mais dans mon unité, on est plus de 350 personnes qui travaillent toutes donc sur ces aspects de biologie végétale, au sens très large du terme, de travaux très fondamentaux. Alors, je pourrais vous en citer plein, jusqu'à des aspects d'utilisation des produits agricoles. Par exemple, on travaille beaucoup sur la cellulose. Vous savez que la cellulose, c'est la molécule biologique la plus abondante à la surface de cette planète. Et c'est une molécule qui a une myriade d'applications, textiles, le papier, tout ça. Tout ça, c'est des combustibles, ça, c'est de la cellulose. Donc, on travaille, par exemple, sur les processus de construction de la cellulose dans les cellules végétales.
Et parce qu'à terme, alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance, nous, à se dire, voilà, cette recherche, il faut bien qu'elle soit appliquée à un moment. On fait de la recherche pour de la recherche, c'est sûr, il y a la recherche fondamentale, mais cette recherche appliquée parce que la société civile cherche toujours aussi à avoir un petit intérêt ou se dire, mais ces chercheurs, ils cherchent pour améliorer quelque chose. Donc c'est dans ce sens-là. Mais quand vous dites, vous pouvez nous parler d'autres recherches fondamentales, lesquelles par exemple ?
Dans mon laboratoire, on travaille par exemple sur le fonctionnement des génomes végétaux, toute la régulation génétique, en particulier une branche de cette thématique qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire en fait tout ce qui n'est pas génétique, ce qui vient en plus du contrôle génétique. On travaille beaucoup sur les interactions entre les plantes et leur environnement, parce que les plantes, c'est des vraies machines à s'adapter à leur environnement. Les plantes, elles sont là, elles doivent subir tous les stress qui leur passent dessus, elles peuvent pas partir en cours courant. Et donc, les plantes réagissent en permanence à tout ce qui se passe dans l'environnement, que ce soit la lumière, la température, l'humidité, la disponibilité en nutriments, etc. Et donc, elles sont en interaction permanente. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, et elles sont d'autant plus importantes qu'on essaie de comprendre comment les plantes se comportent dans un environnement changeant. Et je pense par exemple au changement climatique. Qu'est-ce qui se passe dans une plante quand on augmente la température, quand on augmente la concentration en CO2, etc. Donc on a des dispositifs expérimentaux pour étudier tout ça. Quoi d'autre? Tout ce qui concerne moi mon domaine, la biologie du développement, la biologie cellulaire. Et en termes d'application, donc je vous ai cité la cellulose, la mise en place de la cellulose, produire différents types de cellulose, différents types de lignine. On travaille aussi beaucoup sur les lignines pour faire des sacs en plastique, pour faire des isolants, pour faire des bétons armés, des choses comme ça. Donc on a vraiment toute une palette de choses sur lesquelles on travaille. Et dans mon unité, il n'y a pas seulement des biologistes. Alors il y a des biologistes avec toutes les composantes de cette discipline, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sous-disciplines, disons, mais il y a aussi beaucoup de chimistes, il y a des mathématiciens, des bioinformaticiens, etc. Et pas que des chercheurs.
Oui, donc
ça, il faudra qu'on en parle aussi.
On va en parler, mais effectivement, cette pluridisciplinarité, avant de basculer sur ce thème, en tout cas, de pas que des chercheurs et de tous ces métiers qui se mettent ensemble. Juste un petit point avec vous, David Boucher, sur quand même l'INRA, parce que donc l'INRA a été fondée en 1946. C'est tout ce qui a rapport à l'alimentation, l'agriculture, l'environnement. Alors j'ai relevé quelques chiffres, 1840 chercheurs titulaires, 8290, alors ça a pu évoluer selon agents titulaires, 500 doctorants rémunérés, un organisme, il faut le rappeler, national de recherche scientifique publique sous la tutelle de deux ministères, de la recherche et de l'agriculture, avec pour mission donc la recherche, l'innovation, éclairer les décisions publiques aussi, et puis contribuer au dialogue entre sciences et sociétés.
Exactement, ça fait partie de toutes les missions de l'INRA. Et on parlait tout à l'heure de recherche appliquée et fondamentale. L'INRA, et je trouve que c'est une bonne définition, se définit comme un organisme de recherche finalisé. Elle a finalisé vers des applications que vous avez citées, donc l'environnement, l'agriculture, l'alimentation, les territoires, et ce genre de choses. Mais la finalisation de ces recherches, elle peut être à plus ou moins long terme, et en recherche en particulier, il n'y a jamais de chemin direct, de ligne droite, il faut toujours prendre des chemins de travers.
Il y a la sérendipité, le hasard aussi qui joue dans ce qu'on découvre.
Et il se trouve que même quand on a des objectifs appliqués, on est souvent obligé de passer par des chemins détournés pour établir des connaissances quand elles sont pas disponibles. Donc l'INRA a tout à fait vocation de faire des recherches à tous ces niveaux-là, de la plus fondamentale à la plus appliquée.
En sachant que l'objectif majeur que l'on trouve sur le site de l'INRA, c'est la sécurité alimentaire dans un contexte de changement global à horizon 2050.
Voilà, c'est globalement ce qu'on peut dire, l'agriculture avec maintenant beaucoup d'objectifs de durabilité et de d'efficacité de l'agriculture. Et de l'alimentation.
Natacha Ouvrier, ce thème nourrir l'humanité au programme ES et L, terminal S aussi.
Alors oui, mais en fait en première LES, on va plutôt s'intéresser aux pratiques agricoles et à la conservation des aliments. En terminal S, ça va être un petit peu plus léger, ça va être plutôt sur le processus de domestication des plantes. Comment à partir de plantes sauvages, on arrive aux variétés cultivées, les premières, puis en gros les dernières techniques d'amélioration des plantes jusqu'à l'utilisation des OGM. Et avec les problèmes que ça peut causer en termes d'atteinte sur la biodiversité, ce genre de choses. He sent an A, minor groove, just as you like it, something smooth that doesn't hurt at all. Here comes the major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. Take all the pieces, there's nothing wrong. But these are my words, these are my lines, this is
is my prayer. Every inch of my skin still holds the perfume of my sin. I try to take it off so many times. I know this is my very last chance. No mercy, no kindness, no defense. I hope it comes naturally. Here comes the major in all its glory. Forgive the failure, say I'm sorry. But he said no, I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. They call the pieces, there's nothing wrong. It's no poetry, no symphony. But these are my words, these are my lines. This is my prayer.
C'était Letter to Lord de Freddy Fada. Il est 16h35, vous êtes sur France Culture. Et c'est la suite de la démarche des sciences, émission spéciale Bac Blanc SVT. Mais surtout, pour les fans de SVT, le bac et après, toute la question des métiers de ce monde et puis des filières aussi à emprunter, notamment en matière d'environnement, de développement durable, d'agronomie et de biotechnologie. Et à mes côtés, pour approcher ce monde professionnel en direct, donc toujours sur France Culture, Natacha Ouvrier, professeur de SVT au lycée Léon Blum de Créteil et enseignante relais dans l'équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Richard Dumez, enseignant-chercheur du Muséum et responsable d'un master environnement dynamique des territoires et des sociétés, spécialiste en ethno-écologie. Également David Boucher, ingénieur agronome, directeur de recherche à l'INRA, spécialiste de génétique et biologie cellulaire végétale. Et puis dans quelques instants, on retrouvera aussi par téléphone Julien Cabioche, professeur de SVT à Rennes et créateur du site Vive les SVT. Alors, je crois que tous les trois, vous êtes assez d'accord pour dire, surtout par rapport à ces filières, par rapport à ces métiers possibles, aux jeunes gens, aux lycéens qui voudraient les emprunter, il n'y a pas que les chercheurs dans cet univers-là. Alors, qui commence ? Allez, donc David Boucher.
Donc effectivement, il suffit simplement de regarder les chiffres. Par exemple, si vous regardez à l'INRA, sur un total d'environ 8000 agents titulaires de l'INRA, il y a qu'environ 20%, un peu plus de 20% de chercheurs. Ça veut dire que ces chercheurs ne travaillent pas tout seuls. Pour moi, le chercheur, c'est un peu, dans une équipe de recherche, c'est un peu le chef d'orchestre, si vous voulez, mais il dépend complètement de son orchestre. Alors la spécificité de la recherche, c'est qu'il doit inventer la partition au fur et à mesure qu'il la joue, c'est ça un peu la difficulté. Mais autour de lui, il y a tout un tas de gens et de professions, d'ingénieurs, de techniciens, avec différentes spécialités. Donc, et tous ces métiers-là sont accessibles, alors dans la recherche publique, sur concours, évidemment, comme tous les postes de la fonction publique. Et il y a énormément de formations qui préparent à ces métiers-là, des formations courtes. Je sais que dans nos laboratoires, on a beaucoup de gens qui sont titulaires de diplômes de BTS, par exemple, pour des métiers de techniciens. Alors c'est des métiers techniques, des gens qui travaillent en laboratoire, qui s'occupent d'appareils, d'instrumentation, de soins au matériel biologique, aux animaux, aux plantes, etc. Donc il y a vraiment une très très grande diversité de métiers de ce point de vue-là dans la recherche. Il n'y a pas que les métiers de chercheurs, certes, ils sont importants, mais il y a aussi tout un tas d'autres métiers qui sont tout aussi importants.
Richard Dumez, alors donc je précise, hein, d'ailleurs vous enseignez au muséum, parce que le muséum c'est un lieu, c'est un monde de la recherche, mais de l'enseignement aussi. Donc dites-nous, alors, parce que vous avez aussi des profils d'étudiants qui peuvent dire beaucoup.
Oui, voilà, donc le master environnement dynamique des territoires des sociétés, enfin, on traite d'environnement et la problématique de l'environnement est difficile sur certains aspects à traiter que d'un point de vue disciplinaire. Donc c'est un master interdisciplinaire et on a des étudiants qui viennent de parcours d'écologie, d'ethnologie, sociologie, histoire. On a même un étudiant qui vient d'une école de design, donc ça, je pense qu'on est plutôt sur une réorientation. Et en fait, c'est des étudiants qui s'intéressent à des problématiques environnementales. Et on a certains étudiants qui n'ont pas des cursus linéaires, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui ont fait une licence et d'autres qui ont fait des BTS. Et après, ils se sont dit, je vais continuer, on fait une licence pro. Donc voilà, il y a plusieurs cheminements possibles. Et comme j'expliquais dans mon parcours, soit on sait très bien ce que l'on veut faire et il faut s'investir dans cette ligne, et si on ne sait pas trop, il faut en choisir une, sachant que l'évolution, peut-être qu'on va réussir à réunir les deux
voies plus tard. Oui, qu'on peut bifurquer, parce que donc, c'est vrai qu'on a souvent le sentiment, quand on entend ces jeunes gens et qu'ils sont dans cette obligation-là de faire des choix, hein, et c'est le cas pour les terminales à cette époque, hein, c'est le fameux choix des APB,
le
c'est ça
APB,
le site APB qui rend fou les parents, les enfants et les professeurs, parce que très compliqué et très mal fichu, peut-on dire. Voilà, j'en prends la responsabilité. Si ça peut faire bouger les choses, ce serait une bonne chose. Et donc, du coup, on les sent quand même assez inquiets, stressés, parce que ils ont ce sentiment que, mon Dieu, je fais un choix, mais il faut pas que je me trompe, parce qu'après, je peux pas en changer. C'est faux.
Oui, alors, c'est vrai que ce qui est perturbant pour eux, c'est qu'il y a à la fois une diversité énorme dans l'offre qui est disponible sur APB, ce qui peut leur faire très peur, parce que des fois, derrière le nom d'un BTS, derrière le nom d'une licence, c'est pas évident pour eux de savoir ce qu'il y a. Il y a se dire, je choisis une voie, un domaine, ça veut dire que je pourrais plus rien faire d'autre après. Il y a aussi des fois une angoisse par rapport à leurs compétences, parce que quand même, en terminale, ils arrivent à bien sentir que dans le petit cocon du lycée, ça marche bien parce qu'il y a quelqu'un qui leur rappelle régulièrement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, avec quel délai, mais qu'après, ils vont quand même être beaucoup plus en autonomie et ça peut leur faire peur. Et donc, il faut qu'ils arrivent à manier tout ça. Et c'est vrai que ça peut être bien aussi de partir, de se dire, voilà, c'est quoi les matières que j'aime bien, qui m'intéressent? C'est quoi mes compétences? Est-ce que j'ai besoin d'être encadré ou pas? Est-ce que je préfère les choses pratiques ou les choses plus théoriques? Et à partir de là, de se dire, bon, bah, si je me sens bien à l'aise sur des choses pratiques et que, par exemple, j'aime bien les SVT, je peux tout à fait choisir de commencer par faire un IUT ou un BTS en 2 ans. Et puis, je vais voir après, peut-être que je vais faire un stage en 2e année dans un endroit que je vais trouver très intéressant. Et je vais me dire, ce travail de technicien, ça me plaît, c'est ça que je veux faire. Ou alors, je vais me rendre compte que j'ai peut-être envie de poursuivre. Et dans ce cas-là, je pourrais tout à fait faire une licence professionnelle à la faculté. Et éventuellement oui. Continuer. Mais voilà, on n'est pas obligé de se mettre des choses, des grands objectifs tout de suite.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Natacha. Ça m'évoque tout un tas de choses, parce que moi, je vois des gens faire ça tous les jours. On a souvent des étudiants, parfois même en apprentissage ou en alternance, etc., qui s'engagent dans des formations techniques, qui soit décident d'arrêter, d'essayer d'intégrer, d'avoir un poste, soit de continuer, de pousser vers une licence pro, etc. Donc, Dieu merci, je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, maintenant, il y a plus de passerelles, il y a plus de possibilités de diverger d'une voie toute tracée.
Alors, on va poursuivre justement dans cette partie de l'émission. Ça va être le deuxième temps de l'émission. C'est les conseils à rappeler à ce stade de l'année. Et puis, d'autres conseils bien utiles. Restez avec nous.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Dernier temps de cette émission spéciale, le bac SVT et après, donc ce temps des conseils à rappeler pour réussir l'épreuve et puis aussi des conseils de site, autres outils pouvant aider les élèves à envisager la suite de leur parcours. Alors, Natacha Ouvrier, la ressource première, le professeur.
Ben oui, et c'est une ressource que les lycéens sollicitent de moins en moins. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui révisent... je sais pas, sur internet, dans des annales, sans forcément ouvrir leur cours, se lancent dans des exercices, se sentent perdus, vont chercher des compléments sur internet, se perdent encore plus. Je me retrouve des fois avec des copies, avec des choses bien trop compliquées par rapport à ce que normalement on attend qu'ils maîtrisent. Ils sont perdus avec ça, alors qu'en fait, ils ont un professeur hein, qui est là pour les aider et ils sollicitent assez peu cette ressource. Donc c'est vrai que moi, ce que je conseille, c'est de commencer par travailler le cours, parce que c'est le travail du professeur, en fait, de prendre le programme et puis de faire la sélection de ce qui est important. Donc, en fait, la base numéro 1 du travail, c'est le cours.
Bien apprendre le plan du cours, faire des fiches.
Voilà, éventuellement faire des fiches. Utiliser le plan du cours, parce que souvent, dans les titres, y a les idées principales. Revoir peut-être des schémas bilans, s'ils ont été donnés en fin de chapitre. Voir si on est capable de recomprendre des documents qu'on a vus dans le cours. C'est ça qui est important au départ. Et puis après, il ne faut pas hésiter à faire des exercices d'application qu'on peut toujours donner à corriger à son professeur, parce qu'il est là pour ça.
Et donc, repérer aussi, bien apprendre les défis
définition, bien sûr, repérer les mots, les notions clés, enfin vraiment, ça c'est pour redonner, parce que le bac blanc, c'est dans combien de temps là?
En général, c'est soit juste après les vacances de février, soit juste avant, en fonction des établissements.
Donc il est encore temps de faire les fiches, et puis selon les types d'épreuves, bien sûr, hein, prévoir les schémas, qu'ils soient bien grands, clairs, les crayons de couleur soignés, je me souviens des conseils que vous aviez donnés déjà l'an dernier, bien légendés, mettre les bons titres, soigner la qualité de la rédaction, je crois que c'est, enfin, vous devez le faire régulièrement, Natacha Ouvrier, auprès de vos élèves. Et puis donc, après, d'autres ressources pour ceux qui, au-delà du cours, ou alors se sentiraient peut-être pas complètement épaulés, sait-on jamais, voilà, ou pas en confiance par rapport aux cours dont ils disposent. Il y a des manuels vers lesquels on peut renvoyer peut-être.
Oui, alors, pour ce qui est de la terminale S en SVT, il y a 3 éditions de manuels scolaires. Donc, en fonction des établissements, ça va être une édition ou une autre, mais globalement, ils sont assez bien conçus. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'en fin de chapitre, il y a toujours des petits exercices d'application vraiment près du cours pour tester les connaissances, avec des questions guidées qui sont souvent corrigées à la fin. Et puis après, on arrive sur des exercices plutôt avec des formats type bac qui sont un petit peu plus compliqués. Donc, ça permet, en fonction de comment on se sent par rapport à une notion, soit de passer directement sur un exercice de type bac, soit de commencer par un exercice d'application pour voir si on a vraiment bien compris les étapes. Et puis après, il y a des ressources bibliographiques de type anal, hein, ou des ouvrages dans lesquels on va trouver à la fois un récapitulatif du cours et des exercices qui sont intéressants. Parce qu'en général, ils sont complets, donc ça permet de compléter le cours, de vérifier qu'on l'a compris, de l'avoir sous une autre forme. Ce qui peut être bien, des fois, quand on n'a pas compris une formulation, avec une autre formulation, c'est plus facile.
Mais oui. Et puis, alors, puisqu'on parlait quand même de cet après-bac, on peut les renvoyer alors sur des sites, des sites sur lesquels ils peuvent trouver des corrections et des sujets en ligne. Hein. Vous en avez repéré et listé certains, je crois.
Oui. Alors, il y a plusieurs sites académiques qui proposent des banques de sujets. Donc, vous avez le site de l'Académie de Besançon, sur laquelle est référencé tous les sujets du bac S et du bac LES aussi, en sciences, depuis qu'il y a les nouveaux programmes, avec tous les sujets qui sont sortis donc en métropole, mais aussi dans les centres étrangers. Voilà. Donc, il n'y a pas de correction sur ce site-là, mais on a toujours un professeur à qui on peut donner éventuellement des pistes. Et puis, l'Académie de Strasbourg, sur le site SVT de l'Académie de Strasbourg, il y a des exercices plutôt pour l'oral du bac. Alors, l'idée, c'est pas de se dire on va préparer l'oral alors que, bon, normalement, on n'a pas forcément besoin d'y aller. Mais c'est des petits exercices courts, avec des formats plus court, plus guidé. Donc, ça peut être très bien d'utiliser ça comme exercice d'application directe. Voilà.
Ben d'accord. Et puis, merci, bien sûr, pour Catherine Donnet qui mettra tous ces liens vers ces sites, hein, pour les lycéens et pour leurs parents, pour pouvoir les aider. On retrouvera ça sur le site de la Marche des Sciences. Je me tourne vers la cabine parce qu'on va justement retrouver au téléphone Julien Cabioche, qui est professeur de SVT au collège-lycée de l'Assomption de Rennes et créateur d'un autre site très intéressant pour ses fans, ses amoureux des SVT. Julien Cabioche, bonjour.
Oui, bonjour. La passion des SVT.
Oui.
Merci d'accueillir.
Mais je vous en prie, c'est la passion de tous là autour de cette table. Et donc, vous êtes le créateur du site Vive les SVT, un site lancé il y a combien de temps déjà?
Ben, lancé déjà depuis 2008, depuis que j'enseigne. J'ai pris l'habitude de mettre en ligne mes cours, et puis ces cours sont agrémentés des travaux pratiques que l'on effectue au fur et à mesure des années. Donc le site s'enrichit petit à petit des travaux d'élèves, des travaux que d'autres professeurs me transfèrent, etc., avec l'actualité des sciences. Donc c'est vrai que c'est un site qui permet d'avoir un autre regard ou d'avoir un regard complémentaire du cours qui est fait en classe.
Alors combien de connexions jour?
Ah, les connexions varient, hein, entre 8000 à 12000 connexions jour, je dirais les veilles de révision ou les veilles de rentrée.
Ce qui montre l'intérêt de ce site quand même, parce que c'est vrai qu'on l'avait repéré, on vous l'avoue, donc on s'est posé un petit peu cette question. C'est déjà un, pourquoi ce site? Et puis on imagine que c'est là cette envie de, au-delà des cours, faire vivre la discipline, parce que je crois que c'est votre sentiment pour vous, tout est SVT dans la vie.
Alors, d'un point de vue d'un prof de SVT, oui, on a ce regard-là sur l'environnement, mais quand on allume un journal télévisé, quand on écoute les informations, on a des sujets sur les dons d'organes, sur la génétique, sur la microbiologie, on parle du virus Ebola, on parle du réchauffement climatique. Les élèves, avec des connaissances étudiées en classe, vont être de futurs citoyens, et puis comment avoir un regard un regard objectif sur la situation quand on n'a pas les connaissances. Donc là, les sciences de la vie et de la Terre ont toute leur place pour apporter justement cet esprit critique sur la situation dans divers domaines.
Et donc, à travers votre site, vous participez comme ça à cette aide possible à apporter aux futurs bacheliers. Vous référencez aussi des sujets, il y a des corrections. Donc, ça devient un outil pour aussi pour mieux connaître peut-être les métiers hein, pour les fans de SVT.
Oui, pour réviser. Aussi, également, il y a un travail de curation, j'allais dire, de nouveaux sites. Parce qu'il y a énormément de professeurs qui font des sites internet de SVT, des animations. Je pense à un autre site qui s'appelle Via SVT. C'est un professeur qui a mis en place des animations compatibles sur tablette pour réviser toutes les notions clés de Terminal S. Ce site est sorti il y a un an. Donc là, je l'ai référencé. Et les élèves, de toute façon, utilisent le même moteur de recherche. Donc, aux professeurs de guider les élèves vers des outils, je dirais, fiables au point de vue données.
Donc, c'est le rôle aussi du professeur.
Tout à fait.
Donc,
un rôle important.
Ouais, donc à travers les sites. Et puis, je crois que vous faites aussi partie, comme Natacha Ouvrier, de ces professeurs qui, dès qu'ils le peuvent, soit illustrent, soit emmènent sur le terrain et essaient de mettre ces élèves dès le plus jeune âge, même dès le primaire, dans votre cas, au contact du monde et des métiers en rapport avec les SVT pour mieux leur faire connaître et les sensibiliser à ça.
Oui. L'observation, l'expérience, l'expérimentation, la modélisation, c'est vraiment le fondement des SVT. Et je vais joindre la notion de plaisir. L'appétence pour les sciences, pour moi, passe par l'expérience, la modélisation. Donc évidemment, ça demande des travaux en effectif allégé, en demi-groupe, avoir le temps d'expérimenter avec les élèves. Et comment créer des vocations si on n'a pas ces bons moments vécus au collège ou au lycée pour ensuite partir dans des études Beaucoup d'élèves n'ont pas un cadre familial où on a des scientifiques dans la famille. Donc, à nous, aux professeurs, à l'institution, de créer ces moments et pour faire les sciences, tout simplement.
Eh bien, merci, hein, Julien Cabioche. On vous rend. Je sais que vous êtes dans l'enceinte du collège lycée de l'Assomption de Rennes. Donc, vraiment, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes par téléphone. Mais on renvoie bien sûr sur votre site Vive les SVT que l'on trouvera aussi en lien .com que l'on trouvera aussi en lien sur le site de la Marche des Sciences. Et puis, on suivra vraiment toute cette évolution et tout ce travail pour mieux populariser et puis faire apprécier les SVT. Merci à vous.
Merci.
Alors je reviens avec vous autour de la table sur ce thème des sites, des ressources. Richard Dumez, on peut en citer un autre d'ailleurs, hein, l'UVED.
L'UVED, c'est une université virtuelle environnement et développement durable, donc une université numérique thématique. Et alors c'est plus pour voir quel est le spectre des possibles derrière environnement et développement durable. Donc c'est un site qui présente des ressources pédagogiques. Alors parfois pour des niveaux master ou licence, mais il y a aussi des petits modules pour amener les lycéens vers transition lycée-licence. Et donc ça permet de voir tout ce qu'il y a derrière. Alors moi je parle beaucoup de biodiversité et de sciences sociales, mais il y a des choses autour de l'urbanisme, de l'écotoxicologie, le sol, le son, le bruit, enfin énormément de choses. Et donc là, il y a plein de ressources pédagogiques, je pense, très, très intéressantes.
Et David Boucher, on peut signaler donc à l'INRA Versailles, Serre Expo.
Alors c'est juste un petit centre d'exposition qui reçoit des groupes de scolaires et qui présente non seulement une exposition permanente sur la domestication des plantes cultivées, mais aussi des possibilités de faire des expériences avec des groupes d'élèves, par exemple de l'extraction d'ADN végétal, des choses comme ça.
Allez, dans la dernière minute qu'il nous reste, j'ai une petite question à vous poser à tous les trois. Si vous aviez pu faire un tout autre choix avec ce même bagage, un métier que vous auriez peut-être aimé embrasser, ou alors là, si demain on vous proposait de partir sur autre chose, mais en lien avec les SVT, bien sûr. Ah, c'est une colle, hein. Natacha Ouvrier.
Oui, parce que moi, en fait, j'ai hésité. En fait, ce qui me faisait rêver quand j'étais en terminale, c'était l'anthropologie biologique. Donc, j'avais fait des recherches et j'avais l'impression que c'était compliqué quand même de travailler dans ce domaine-là. Mais j'étais pas à Paris à cette époque et du coup, je me suis tournée vers l'enseignement. Mais c'est vrai que ça me fait un peu rêver les gens qui travaillent au Musée de l'Homme.
Bon, Richard Dumez.
Mais moi, ce serait un métier quand même sur le terrain, en interaction sur les questions d'aménagement et avec les collectivités locales, sur le terrain, vraiment, le fonctionnement sur le terrain.
Le contact. David Boucher.
Je ne peux pas répondre à cette question.
vous êtes bien dans
votre baskets. Je ne me suis jamais posé cette question. Vous voyez, probablement que je suis bien dans ce que je fais, mais je ne me suis jamais posé la question en ces termes-là.
Bon, mais écoutez, je vous remercie vraiment tous les trois. Natacha Ouvrier, Richard Dumez, David Boucher et puis Julien Cabioche qui était avec nous par téléphone tout à l'heure. Sans oublier les élèves du lycée Léon Blum de Créteil. Et d'ailleurs, nous terminons l'émission avec un de leurs choix, justement, musical. Ce choix musical, The Story of Impossible, que l'on doit à Louise Chaput.
Crafted pride by monsters of the tree, the wild screech circus. We have the story of the impossible, a tale best of suffering.
Et je n'oublie pas aussi de renvoyer les élèves sur deux livres très importants de l'UNICEF. Deux ouvrages. Le premier, Les métiers de l'environnement et du développement durable. Métiers, études, emploi. Ils trouveront tout dans ces volumes. Et puis donc le deuxième s'intitule Les métiers de la biologie et des biotechnologies. Et puis bien sûr, toutes les informations, les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La marche des sciences, puis archives. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an, nous suivre sur Twitter et puis aussi désormais sur la page Facebook ouverte par Anaï Morales. Et c'est la fin de La Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été préparée avec le savoir-faire de Catherine Donnet, avec Anaï Morales pour la recherche des pépites sonores, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique Bruno Gagnère-Fontani et Édouard Rubinstein. Et puis sachez que la semaine prochaine, autre terrain non sans lien d'ailleurs avec les SVT, celui de l'éthologie. Le sexe revu par les bêtes, avec Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Agro-Paritech et à Sciences Po. Il sera là pour parler du livre de Menno Schiltizen, Comme les bêtes, ce que les animaux nous apprennent sur notre sexualité. Demain, autre rendez-vous Culture Science à ne pas rater à 16h, Michel Albergantier, Sciences Publiques. Et d'ici là, à 17h, une belle plongée radiophonique vous attend avec les Sur les Docks. Tout de suite, les bonnes feuilles, bonne fin d'après-midi.